7-9 de France Inter, première matinale de France. Vous êtes 3 900 000 auditeurs à nous écouter chaque matin. Retrouvez-nous aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et l'invité du grand entretien ce matin est co-réalisateur du film documentaire Demain, qui avait rencontré un vif succès auprès du public. Il vient de publier un petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud. Les questions de Léa Salamé dans 10 minutes, les vôtres au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Cyril Dion, bonjour.
Bonjour.
Sous-titre de ce petit manuel de résistance contemporaine, Récits et stratégies pour transformer le monde. C'est un livre pratique, théorique, mais pratique aussi sur l'urgence écologique et l'urgence qu'il y a à transformer nos manières de vivre. Maintenant que nous savons précisément dans quel état est la planète et quels sont les risques qui nous attendent. Nous le savons, mais nous ne changeons pas substantiellement nos manières de faire et nos manières de vivre. Pourquoi ?
Voilà une bonne question qui est sans doute la question qui nous occupe depuis près de 40 ans. En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que il y a des mécanismes dans le cerveau. Donc, s'il y a des spécialistes du cerveau qui nous écoutent, je m'excuse par avance de la simplification que je vais opérer. Mais en gros, on a deux hémisphères dans le cerveau. Un hémisphère qui est plutôt ce qu'on appelle le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel. Or, des deux, c'est toujours le cerveau émotionnel qui gagne parce que l'évolution nous a programmés pour ça. Parce que c'est le cerveau émotionnel qui nous sauve du danger. Donc quand on nous présente un danger tangible comme une voiture qui vous fonce dessus quand vous êtes au milieu de la route, la réponse c'est « je m'enfuis et je vais me mettre à l'abri ». Quand on vous parle de quelque chose qui est un danger intangible comme le changement climatique et qui potentiellement va vous mettre en danger dans 20 ans, dans 30 ans ou même peut-être vos propres enfants, la réponse du cerveau est très souvent de s'enfuir, d'essayer de ne pas se confronter à ce danger pour lequel on n'a pas de réponse immédiate, puisqu'on a l'impression que la réponse qu'on pourrait y apporter est trop petite. Et donc, la fuite s'opère par le déni, la plupart du temps.
Et donc, il y a une articulation quasiment impossible, si on essaye de voir ce qu'on peut faire, entre ce que les uns et les autres, ce que moi, ce que Léa, ce que vous pouvez faire pour essayer de prendre en compte ce risque-là et ce que nous pouvons collectivement faire. Et on a l'impression que ces deux envies potentielles ne se recoupent jamais.
Elles peuvent se recouper.
Difficilement, en
fait,
cas.
Pour moi, pour qu'elles puissent se recouper, il faut que ce que chacun d'entre nous va faire puisse s'inscrire dans une vision plus large du futur et puisse s'inscrire dans un récit qui est un peu le c'est un peu mon dada hein, et puis c'est un peu le l'idée sous-jacente du livre hein, c'est de dire que l'ensemble des organisations sociales l'ensemble des constructions humaines même s'appuie sur des récits, tout est récit. Les religions sont des récits, les États sont des récits, les idéologies comme le capitalisme, le libéralisme, le communisme, l'argent est un récit. Or, on a tendance à penser que ces récits sont la stricte réalité, et donc à imaginer qu'ils sont immuables. Et ces récits sont tellement puissants, tellement présents, qu'on finit par ne même plus les remarquer. C'est un peu comme l'air qu'on respire ou l'eau qui serait autour du poisson. Donc, quand chacun d'entre nous va commencer à faire quelque chose un peu différemment, va se mettre à aller, je sais pas, en vélo, au boulot, ou à devenir végétarien, ou quand on va avoir des discours qui vont contre le récit global dans lequel on vit aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je donne un exemple dans le livre, sur Instagram. Donc Instagram qui est un endroit où beaucoup d'histoires, on dit qu'on publie sa story sur Instagram, se publie chaque jour. La conversation tourne autour de l'image, donc beaucoup autour du paraître. Je me suis amusé à comparer l'impact d'un post de Greenpeace International sur Instagram, donc à peu près 750 000 followers. Quand il poste quelque chose sur le changement climatique, il y a à peu près 10 000 likes. À côté de ça, Kim Kardashian, 105 millions de followers. Quand elle poste quelque chose sur son nouveau gloss à paillettes, il y a 2 millions de likes. Mmh. Parce que la conversation générale se passe autour de l'apparence. Donc, si on veut vraiment transformer la société, pour moi, il faut pouvoir créer une conversation, créer un récit qui vienne remplacer le récit dominant actuel, qui est un récit matérialiste, consumériste, sur la croissance économique.
Ce récit dirait quoi ? Ce contre-récit dirait quoi ? Puisqu'il faut mener une bataille culturelle, donc.
Pour moi, le fondamental de ce récit, c'est de dire que nous et la nature, nous sommes inextricablement liés. En fait, que nous sommes totalement interdépendants. que nous sommes interdépendants des écosystèmes. Et donc, qu'à partir du moment où on détruit les écosystèmes, ou à partir du moment où les autres êtres humains sur la planète, auxquels on est aussi irrémédiablement liés, sont en difficulté, voire même sont en train d'être détruits, puisqu'on voit que la biodiversité est en train de s'effondrer, et on voit que ça a des impacts aussi sur les autres êtres humains, que le changement climatique en a avec les migrations, etc. Ça va forcément nous retomber dessus. Donc, un récit qui pourrait fonctionner pour le futur est forcément un récit de coopération entre les humains et un récit de coopération entre les humains et la nature. Mmh.
Pourquoi ce récit ne prend pas, Cyril Dion ? Parce que tout ce que vous venez de dire, on le sait, c'est étayé, il y a des travaux scientifiques, il y a des congrès mondiaux, il y a des symposiums, il y a des prix Nobel, il y a tout. Donc tout ça, on le sait.
J'ai la faiblesse de croire que ce récit est en train de prendre, ou qu'il peut prendre. En fait, le succès du film qu'on a réalisé avec Mélanie Laurent demain, qui a été distribué dans 30 pays, qui a réuni 1 200 000 personnes en France, pour moi, et le témoignage, la manifestation, que quand on essaye d'articuler ce récit, et là c'est ce qu'on a fait, en allant dans une dizaine de pays, en allant voir certaines des meilleures solutions qu'on connaissait dans plein de domaines, en les mettant ensemble comme les pièces d'un puzzle, tout d'un coup ce récit a une portée. Et a une portée non seulement culturelle ou en termes d'imaginaire, mais a aussi une portée en termes de mise en œuvre. Mmh. Puisqu'il y a plus d'un millier de projets qui ont été lancés suite au film. France 2 nous a carrément commandé un autre documentaire pour aller voir les gens qui ont été faire des choses. Et il y en a certains, dont Anne Hidalgo par exemple, la maire de Paris, qui se revendique notamment demain comme une inspiration pour le plan climat de Paris, neutre en émissions de CO2 d'ici 2050, pistes cyclables qui font râler tout le monde, etc.
Ça fait râler, hein. C'est râler. Le sens de ma question, c'est-à-dire que c'est le récit commence à être perçu, à être entendu, et ça continue à faire râler.
Mais ça fait râler, enfin je veux dire, ça cristallise des oppositions, c'est naturel. De tout temps, quand il y a eu des changements de société forts, quand on est passé d'un récit qui disait « les hommes sont supérieurs aux femmes » à un récit qui est « ben non, en fait, les hommes et les femmes sont égaux et ils ont le droit d'avoir les mêmes droits », ben, y en a que ça faisait râler, bien sûr.
Que vient faire Internet dans votre réflexion sur l'écologie ?
En fait, c'est pas une réflexion uniquement sur l'écologie, c'est une réflexion sur ce qui structure nos sociétés. Et ce que j'essaie de développer dans le livre, c'est, pour moi, il y a un grand récit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un peu l'air qu'on respire. Et ensuite, il y a des architectures. C'est-à-dire, il y a des choses qui conditionnent nos comportements au quotidien. Et j'identifie trois architectures principales. La loi, donc on voit très bien pourquoi. L'argent, c'est-à-dire la nécessité d'aller travailler chaque jour pour gagner de l'argent. Donc, peut-être d'être conduit à faire un métier qui nous plaît pas tant que ça. Et de passer toute sa journée à dépenser son temps, son énergie, sa créativité dans quelque chose qui va pas forcément dans le sens de nos valeurs ou de construire une autre société. Et les algorithmes et et les écrans.
Expliquez-nous.
Aujourd'hui, en fait, quand on regarde les études sur le temps que passe un Français devant les écrans, c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français passe en moyenne à peu près 8 heures devant un écran. 4 heures devant la télé et 4 heures devant smartphone, tablette, internet, récréatif, de loisirs ou pour aller se renseigner sur je ne sais quoi, mais pas un écran pour travailler. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus documenté que à la fois les algorithmes de Facebook, de Google, à la fois l'ergonomie des applications sont faites pour aller capter l'attention. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Le but est que vous passiez le plus de temps possible sur Internet et sur ces applications, en général pour vous vendre quelque chose à la fin. Et finalement, tout ce temps qui est consacré à ça, qui est orienté par... les architectes du choix, c'est ce que dit le philosophe Matthew Crawford sur les ingénieurs de la Silicon Valley, c'est du temps de divertissement, c'est du temps qui peut nous divertir d'un certain nombre d'enjeux, c'est du temps aussi qu'on passe finalement à ne pas s'engager pour un certain nombre de sujets.
Et puis ça induit une autre façon de consommer.
Et si on les met bout à bout, c'est-à-dire que si on met les 5h30 en moyenne qu'on travaille par jour, plus les 8h qu'on passe devant l'écran, plus les 7h où on dort, le temps qui nous reste pour vraiment faire la différence est minime.
Alors, je le disais, Cyril Dion, le constat est fait, documenté, il est clair. Ensuite, on y résiste pour mille raisons. Que vous inspire la première année de Nicolas Hulot au gouvernement ? Il avait une énorme légitimité. Il a aujourd'hui un très gros ministère. Collectivement, même si nous refusons parfois de voir les choses, la prise de conscience est tout de même plus aiguë des dangers liés à l'urgence climatique. Et on a le sentiment que politiquement, ça n'a jamais été aussi compliqué pour quelqu'un, même comme lui, de faire avancer ces sujets. Quel regard vous portez sur les souffrances de M. Hulot ?
Bah, d'abord, une certaine compassion, parce que c'est... on se connaît bien, on s'apprécie, et je savais tout à fait qu'il allait rencontrer ce type de difficultés. En fait, ce que ça illustre pour moi, c'est que un responsable politique a finalement relativement peu de pouvoir pour changer les choses. Et là, on en a une manifestation criante, puisque on sait qu'il connaît les sujets, on sait qu'il veut faire changer les choses, on sait que il est pas là pour faire de la politique ou pour sa cause personnelle, et pourtant, même s'il y a un certain nombre d'avancées tout de même, on voit bien que c'est pas à la hauteur. Et c'est pour moi l'illustration de ce que François Mitterrand confiait à sa femme en 1983, qui lui disait, mais sa femme Danielle, qui lui disait, mais quand est-ce qu'on va faire les mesures qui vont vraiment transformer le pays? Et il lui disait, mais on a gagné le gouvernement, on n'a pas gagné le pouvoir. C'est ce qui s'est passé aussi avec Barack Obama. Enfin, quand Barack Obama, pour moi, c'est qui suit d'une génération moyenne, on va dire, qui va avoir bientôt 40 ans. Moi, c'était une émotion incroyable. Je pensais que ce type allait changer le monde, vraiment. Et quand on regarde 8 ans plus tard, en fait, ça a accouché d'une souris. Mais tout ça, encore une fois, est logique. Parce que l'organisation politique et l'organisation démocratique ne permet pas. Pour moi, Nicolas Hulot, aujourd'hui, aurait besoin non seulement de pouvoir s'appuyer, comme on le disait tout à l'heure, sur un récit, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur les gens. Il faudrait qu'il y ait 1 million de personnes dans la rue qui disent « Nous, on veut de l'agriculture biologique, on veut des énergies renouvelables, on veut une taxe sur les transactions financières. » Et aujourd'hui, c'est pas
seul.
Le cas. Il est tout seul, pris en sandwich.
Cyril Dion est notre invité. Petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud. Il est 8h33. Les questions de Léa Salamé, qui est l'un des personnages de votre livre, mais on y viendra tout à l'heure.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
D'abord, une réaction sur cette enquête édifiante de Greenpeace ce matin. 70% des écoliers français se voient proposer de la viande ou du poisson tous les jours à la cantine. Large enquête auprès de 12 000 parents et donc révélée ce matin par France Info. Tous les jours, on propose à 70% des enfants de la viande ou du poisson.
Là encore, on a l'illustration parfaite d'une histoire, d'un récit qui est « si on mange pas de la viande et du poisson tous les jours, on va être en mauvaise santé ». Qui est aujourd'hui battu en brèche par de nombreux nutritionnistes, par de nombreux médecins, qui expliquent qu'un régime alimentaire, même qui serait du 80-20, j'ai entendu Thierry Marx sur votre antenne le dire, c'est-à-dire 20% de produits d'origine animale, 80% de produits d'origine végétale, ça va très bien, il n'y a pas de carence, tout va bien fonctionner.
Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait imposer un jour végétarien? Quelle serait la bonne solution réaliste, hein, parce que c'est...
En fait, il faut repenser les menus. C'est-à-dire que, évidemment, c'est bien dans un premier temps d'avoir un jour végétarien, mais c'est un peu la journée de la femme. Enfin, c'est-à-dire que on le fait.
Un jour végétarien par semaine, c'est pas la journée de la femme.
Oui.
Une fois par an.
C'est vrai. C'est la journée de la femme toutes les semaines.
Oui.
Non, c'est mieux. Mais encore une fois, ce qu'il faudrait, c'est repenser les menus. Faire en sorte que on fasse la cuisine différemment. Aujourd'hui, en fait, on a une conception de la cuisine qui est on a de la viande ou du poisson et on a de la garniture. Donc c'est sûr que quand on enlève la viande et le poisson, c'est triste, il n'y a plus que de la garniture. Alors qu'il y a plein de cultures dans le monde qui savent cuisiner les légumes. Et c'est délicieux. Même pas forcément des pays exotiques. Quand je suis allé en Californie là pour la sortie de demain là-bas, c'est absolument formidable d'être végétarien là-bas, alors qu'ici c'est un peu une punition parfois.
Et puis là on vous dira que c'est aussi, il faut être riche pour être végétarien, il faut être riche pour bien manger, il faut être riche pour manger bio.
Bah, c'est ce qui est un peu fou, parce que si vous regardez la base de l'alimentation indienne par exemple, c'est une cuisine végétarienne justement parce que ça coûte trop cher de manger de la viande tous les jours. C'est
alors,
le contraire.
Vous disiez à Nicolas tout à l'heure que l'important c'est de parler du récit et l'important c'est l'apparence dans nos sociétés. Du coup il y a une série de people, comme on dit, de personnalités qui s'engagent. Brigitte Bardot dans une petite vidéo, Sophie Marceau dans une vidéo dont on a beaucoup parlé ce week-end. Il y a ces initiatives-là parce qu'il y a la loi alimentation qui arrive à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais savoir, Sophie Marceau, elle s'engage pour les poules, Brigitte Bardot pour la vidéosurveillance dans les abattages. Quelle est l'urgence aujourd'hui, alors que cette loi arrive et va être discutée à l'Assemblée nationale, quelle est l'urgence, selon vous, d'interdire l'élevage de poules ou bien la vidéosurveillance dans les abattages? Dites-nous.
L'urgence, c'est de transformer le modèle agricole. En fait, l'agriculture est une des activités qui détruit le plus sur la planète, qui détruit le plus d'écosystèmes, donc déforestation, donc érosion des sols, donc on perd des puits de carbone à la fois dans l'humus du sol et à la fois dans les forêts. Tout ça pour faire pousser souvent du soja et du maïs pour nourrir des animaux d'élevage qui sont en plus élevés dans des conditions terribles. Donc aller vers un modèle agricole qui soit beaucoup plus local, beaucoup plus bio et beaucoup moins carné, en tout cas beaucoup moins de protéines animales, ça c'est l'urgence absolue, à la fois pour la biodiversité et pour le changement climatique.
Oui, mais là, si on doit prendre des mesures concrètes, ce que je veux dire, c'est que dans l'idéal, c'est l'idéal, mais là, concrètement, est-ce que vous demandez la vidéosurveillance dans les abattages, par exemple, ça changerait vraiment les choses?
Oui, de toute façon.
Emmanuel Macron l'a promis pendant la campagne, manifestement, il est en train d'y revenir.
De toute façon, c'est nécessaire. Enfin, de toute façon, il faut changer notre façon de nous comporter par rapport aux animaux dans l'absolu, et par rapport aux animaux d'élevage en particulier.
Il faut voter l'interdiction de l'élevage des poules en batterie?
Ah bah oui, c'est sûr. Non mais quand on a vu ça, quand on a vu comment ça se passe, c'est pas possible de traiter les animaux comme ça.
Je n'ai eu qu'une seule envie, prendre l'avion, me faire couler un bain moussant et bouffer une bonne côte de bœuf. C'est une citation des propos de Léa Salamé.
Une réplique mythique.
Mythique après avoir vu votre film. Demain, je ne sais pas, vous avez changé Léa depuis?
Oui, non mais c'est vrai que vous parlez de ce moment qui s'est passé dans une émission de télévision On n'est pas couché pour la cité. Et c'est vrai que j'ai beaucoup repensé à ce moment-là, vous en parlez dans le livre. Voilà, ce n'est pas le propos de cette interview ce matin, mais je vous l'ai dit déjà il y a un an, et je vous le répète là publiquement.
La conscience a évolué.
Oui, j'ai regretté ce moment où j'ai usé d'un cynisme un petit peu facile en vous disant c'est tellement plein de bons sentiments ce film que j'ai envie de me faire couler un bain et de manger une barbecue. Et en fait, vous avez réussi à opérer ma mue, à me faire réaliser le ridicule de mes propos.
Mais écoutez,
et
j'en suis
voilà,
très touché.
Donc je me retrouve dans votre livre, c'est très bien, mais voilà, il fallait que je le dise
publiquement.
À
l'origine même, parce que j'ai quand même l'impression que ce livre est aussi une réponse à cette objection que vous aviez formulée, Léa. Oui, Cyril Dion, et puis on va au standard.
Cela dit, c'était pas gratuit. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on entend très souvent. Le fait de dire vous êtes un bisounours, c'est plein de bons sentiments.
Non, et puis le sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver quand on est culpabilisé depuis le début de notre âge conscient jusqu'à notre mort. On n'a plus qu'un droit, c'est d'espérer mourir en bonne santé.
Absolument, et c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt susciter des ressorts qui sont de l'enthousiasme, de la créativité, de s'identifier à des gens qui font des trucs super, plutôt que de dire dis donc c'est pas bien, faut que t'arrêtes de manger de la viande, faut que t'arrêtes de prendre l'avion, faut que t'arrêtes de prendre ta voiture, faut que t'arrêtes de faire couler des bains, ce qui est pas très efficace en plus.
Denis, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu.
Merci, je vous remercie. Voilà, d'abord une réflexion. L'écologie politique affirme depuis 50 ans que l'expansion de la civilisation industrielle saccage notre milieu de vie et ne peut être viable. Soyons optimistes, disent certains essayistes, comme votre invité, alors que nous n'avons jamais été aussi rompus qu'aujourd'hui, et le progrès poursuit sa marche. Mmh. Ça, c'est ma réflexion, mais j'aimerais poser une question plus directe à votre invité. Notre-Dame-des-Landes avait des projets alternatifs qui étaient viables, et on assistait à une expulsion, d'ailleurs les expulsions continuent. J'aimerais avoir l'avis de votre invité. Justement, là, on avait un microcosme d'une société alternative qui pouvait marcher, et on l'a très peu entendu. Alors, au-delà de ses propos lénifiants, je pense qu'il aurait pu peut-être s'engager davantage dans le débat, afin de donner quand même un avis sur, justement, cette société de décroissance.
Merci.
Qui peut être une alternative intéressante.
Merci Denis, merci pour les propos lénifiants. Cyril Dion peut vous répondre maintenant.
C'est apprécié à sa juste mesure, ce compliment. En fait, je me suis engagé dans Notre-Dame-des-Landes, j'ai signé plusieurs tribunes, j'ai même publié récemment une tribune dans Le Monde, à la fois pour dire que effectivement là pour le coup il y avait les germes d'un autre récit, c'est-à-dire d'une société alternative, d'une société où les gens sont pas dans une démarche de propriété privée, où justement on se dit l'économie et le développement de la société ça passe pas forcément par des grands projets industriels, mais ça peut passer par simplement repenser notre façon de vivre ensemble, faire de l'agriculture, se relier à la nature. Et pour moi, la grande difficulté de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il n'y a pas d'espace dans lequel on a pu avoir une véritable conversation sur ça. C'est-à-dire, ok, Emmanuel Macron a dit on ne construit pas l'aéroport, mais finalement, la question fondamentale que ça posait, c'était Est-ce qu'on continue à construire des aéroports? Est-ce qu'on continue à doper le transport aérien? Donc, est-ce qu'on continue à vendre des Airbus un peu partout dans le monde? Donc, quel est notre modèle de développement pour l'avenir? Et cette conversation-là, elle n'existe pas.
Et alors, la une du Parisien ce matin, c'est Notre-Dame-des-Landes, la facture d'un projet avorté. Il y a deux factures, l'une à 700 millions d'euros. Combien donc cela pourrait coûter aux contribuables le maintien de l'aéroport actuel? Et si l'aéroport avait été déplacé, 34 millions d'euros. Alors c'est une facture où il y a tout, le coût du prolongement du tram, les indemnisations de riverains, l'opération d'expulsion de la ZAD, tout cela est chiffré, mais les gains ne le sont pas. C'est très étonnant, c'est comme quand on réfléchit sur le PIB, les destructions sont des sources de revenus.
Oui, non mais les gains ne le sont pas, et encore une fois, on continue à réfléchir dans la même logique. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas non plus à quelle logique alternative on pourrait mettre en place pour que les gens se déplacent, par exemple, à l'intérieur de la France, sans être obligé de prendre l'avion. Comment est-ce qu'on développe ces projets agricoles pour que ça participe justement, par exemple, à l'alimentation des cantines? En quoi est-ce que ça serait un gain plutôt que de faire venir de la nourriture de je ne sais pas où? Donc, on est toujours dans un débat qui est extrêmement fermé sur lui-même, je
trouve. La parole à Hélène de Marseille. Bonjour Hélène.
Bonjour, merci de prendre ma remarque. Je voulais revenir sur la résistance au changement qui était évoquée par votre interlocuteur tout à l'heure, au début de l'émission. Je voulais dire que les citoyens font les choix qu'ils peuvent faire en fonction des politiques publiques qui sont appliquées. Et par exemple, moi je peux pas aller au vélo, je peux pas aller au travail à vélo, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas de voies cyclables qui sont praticables. Mmh. Et de plus, bon, moi j'habite Marseille, il faut savoir que à Marseille, il y a un projet boulevard urbain qui est en projet au pied des Calanques. Et il y a beaucoup d'espaces verts qui vont être rasés pour faire la place à la voiture. Mmh. Il n'y a pas un tram, une voie cyclable, des choses comme ça qui vont être mises en place à la place.
Merci Hélène pour cette intervention. On fait les choix qu'on peut. Très intéressant.
Oui, mais c'est assez représentatif de la conversation qu'on a toujours par rapport au sujet écologique. On se sent toujours culpabilisé dans son quotidien en se disant bah, c'est l'État qui devrait faire et moi je fais ce que je peux et c'est trop cher et ou c'est un truc de bobo. Ou... En réalité, l'État se met à transformer les politiques publiques quand la culture, la représentation du monde d'une grande majorité de la population a changé. C'est ce qui s'est passé, encore une fois, pour la loi sur l'avortement, pour la loi contre la ségrégation aux États-Unis. À un moment, on se dit, ben non, ça n'est plus acceptable. Donc, théoriquement, si cette bataille culturelle, on arrive à la remporter, dans 10 ans, ça sera absolument naturel pour n'importe quelle ville de faire des pistes cyclables, ça sera naturel pour les enfants d'avoir de l'alimentation bio à la cantine, et personne ne se posera plus la question.
L'alternative sera même impensable. Merci en tout cas Cyril Dion. Petit manuel de résistance contemporaine, publié chez Actes Sud dans la collection Domaine du Possible.